Merci.
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Autour de moi, ce soir, le réveillon de la dispute, Anna Sigalevitch, Charles Ardel et Emmanuel Dupuis avec à notre affiche Funny Girl, la comédie musicale de Bob Merrill et Jules Stein, mise en scène Stephen Mear au Théâtre Marigny à Paris, Un Américain à Paris de George et Ira Gershwin jusqu'au 1er janvier au Théâtre du Châtelet, Yes, le nouveau spectacle de la compagnie Les Brigands en association avec le Palazzetto Bruzane, c'est en tournée. Et puis il y aura un coup de cœur, bien sûr, celui de Charles Ardel ira à Street Scene de Kurt Weill, récemment paru en DVD chez Bel Air Classique. Et nous ouvrons cette dispute avec Funny Girl de Bob Merrill et Jules Stein, qu'on peut voir jusqu'au 7 mars prochain au Théâtre Marigny à Paris. La mise en scène et les chorégraphies, c'est Stephen Mear. Dans la fosse, c'est James McKeown qui est à l'ouvrage. Alors, Funny Girl, création en 1964 à New York, alors que le grand âge d'or des comédies musicales touche à sa fin. L'histoire est inspirée de faits réels, comme on dit. Nous sommes dans les années 20. Fanny Bryce est une star de Broadway. Son mari Nick est en prison. Elle est assaillie de doutes sur son couple. Et en attendant de prendre une décision, elle se remémore son parcours, la jeune adolescente ingrate et ambitieuse qu'elle était lorsqu'elle cherchait à tout prix à décrocher des rôles, sa grande romance avec celui qui deviendra son mari et sa fulgurante ascension sur la scène des Ygritte Follies. Un premier tour de table pour résumer votre impression. Alors, Emmanuel Dupuis n'est pas encore là, il est perdu dans les couloirs, mais il va arriver. Anna Sigalevitch.
Un spectacle qui a beaucoup d'énergie, avec notamment une interprète principale, Fanny Bryce, interprétée donc par Christina Bianco, qui envoie du bois, si je puis dire.
Charles Ardel.
C'est voué en effet un one woman show, même un one woman shows au pluriel, tant elle arrive à porter une multitude de spectacles enchaînés. C'est ce qu'on attend d'une comédie musicale qui émerveille.
On va l'écouter tout de suite, Christina Bianco.
Fanny. Can't you see? You're making a fool of yourself.
No, Eddie, I only know one way to operate. When something is right for me, I do it. And this is right for me.
But is it right for Nick?
I'll make it right for him.
Take my advice. Don't.
Don't tell me. Don't. Don't tell me not to live. Just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly. Got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'll march my band out. I'll beat my drum. And if I'm found out, I'll turn it back, sir. At least I didn't fake it. At sir, I guess I didn't make it. But whether I'm the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy, and you'll see I'm gonna have my beat, sir. Get ready for me, love, 'cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud to rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One throw, that bell will go clang. Eyes on the target and wham. One shot, one gunshot and bam. Hey, mister. Here I am.
Bon, il a clairement plu hein, sur la parade d'Emmanuel Dupuis, mais néanmoins, un petit mot peut-être sur la musique déjà de cette comédie musicale.
Alors, c'est une musique, bon, il faut dire les choses franchement, c'est qui exploite les ressorts de la comédie musicale façon Broadway, sans toutefois avoir le génie d'un Bernstein ou d'un Gershwin ou même d'un Sondheim. Mais ceci étant, c'est très bien fait, c'est très bien écrit pour les voix, ça met très bien les voix en valeur. Il y a beaucoup de, comme dans toute comédie musicale qui se respecte, il y a beaucoup de passages instrumentaux qui sont propices à la danse et donc voilà, tout ça est très efficace.
Anna Sigalevitch.
Oui, absolument. C'est vraiment très efficace. C'est pas d'une folle originalité. C'est-à-dire que on va parler après d'un Américain à Paris. En sortant d'un Américain à Paris, même si, oui, c'est plus connu, etc. Mais les airs, plusieurs jours, me sont restés en tête, etc. Là, c'est plus un moment extrêmement sympathique et une musique qui sert le show, le spectacle et qui, en effet, très bien faite, très bien ficelée, etc. L'intérêt est aussi ailleurs, c'est vraiment à la fois, si je peux glisser un petit peu sur l'histoire qui se raconte, donc vous parliez, Lucille, de ce personnage qui a existé, hein, donc cette Fanny Bryce, qui était une héroïne de show dans les années 20, et on plonge, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu, dans le début en fait de Broadway, on voit comment tout ça se construit, se tricote, avec donc deux figures majeures de cette époque, qui sont Fanny Bryce et Florence Ziegfeld, qui était donc un impresario, un producteur de comédie musicale, qui avait donc pignon sur rue à Broadway, et avec... Il y a vraiment deux sujets qui sont traités, c'est-à-dire la foi sacrée, le feu sacré d'une artiste qui a priori n'est pas spécialement jolie, n'est pas enfin, en tout cas qui n'est pas dans les canons en vigueur et qui par sa détermination, par sa foi et par son énergie va faire une grande carrière. Donc ça, on y assiste très bien. Et puis là aussi grand classique, mais c'est très bien fait et très bien construit et c'est aussi tiré d'une histoire vraie. Donc cette Fanny Bryce qui a eu une vie personnelle extrêmement tumultueuse, actrice et chanteuse comique qui, dans sa vie privée, connaissait de grands tourments, pas très amusants, et qui, The Show Must Go On, quoi. Donc il y a ça, il y a Le Faux Sacré et The Show Must Go On. C'est vraiment les deux fils qui sont tirés tout au long du spectacle et du film. Alors moi, je n'avais vu ni le film, ni la comédie musicale, bien sûr, mais j'ai regardé le film avant d'y aller. Et alors là, c'est toute la question, parce que cette comédie, le film est vraiment extraordinairement bien interprété par Barbara Streisand.
Oui, qui est la voix du rôle depuis le début, hein, depuis 64, oui. Sur les scènes de Broadway.
Voilà, elle a eu 22 ans à 64, ensuite elle a joué dans le film. Donc on se dit, oulala, mais comment est-ce que c'est possible de remplacer, en tout cas de supplanter, pas forcément de supplanter d'ailleurs, mais en tout cas d'incarner ce personnage de Fanny Bryce.
On y revient parce que c'est un rôle en effet qui est écrasant, j'ai l'impression, dans la comédie musicale, que moi je n'ai pas encore vu. Charles Arden, peut-être un mot justement sur la chanteuse principale, Christina Bianco.
Impressionnant, c'est vraiment l'école américaine de ces artistes qui savent absolument tout faire, avec à la fois naturel, technique, une éclatante notion de la et conscience du plateau, de la sobriété, et c'est vraiment pas facile pour ce spectacle en particulier qui repose entièrement sur ses épaules, aussi bien au niveau de l'histoire bien sûr, puisque c'est vraiment sa perspective, elle revit voilà sa carrière passée et ses amours problématiques en flashback. C'est comme on l'a dit une compilation en fait de Ziegfeld Follies, donc de différents spectacles qui s'enchaînent comme ça. Elle est impressionnante d'endurance, de technique, voilà, c'est vraiment ce qu'on attend d'une performance de musical.
Sur la voix, peut-être, Emmanuel Dupuis.
Oui, comme vous l'avez dit, le grand défi pour Christina Bianco, c'était de succéder à Barbara Streisand, qui a créé le rôle qu'il a incarné au cinéma. Et c'est un défi qu'elle relève vraiment brillamment, comme l'ont dit mes camarades. C'est-à-dire avec une voix puissante, peut-être un petit peu plus nasale par moment que celle de Streisand, mais c'est pas du tout gênant. C'est sa signature vocale d'une certaine manière. Et puis surtout, elle a un abattage absolument monumental et elle met la salle à ses pieds en quelques minutes. Donc le défi est vraiment très brillamment relevé.
Alors peut-être un mot sur ce qui se passe sur la scène, les décors, la scénographie. Emmanuel Dupuis, qu'est-ce qu'on peut voir quand le rideau se lève?
Alors, quand le rideau se lève, on voit un cadre de scène qui est formé de poutrelles métalliques qui, pour moi, évoquent le métro aérien à New York, ou peut-être le pont de Brooklyn. En tout cas, un univers industriel qui est l'univers industriel des années 1910, ou 1920, au cours desquels se déroule l'action. Et dans ce cadre, on va assister à une multitude de changements des corps qui sont opérés avec une très grande fluidité. Il n'y a vraiment aucun temps mort. Mais voilà, on voit des décors extrêmement différents. D'abord le quartier populaire, le quartier juif en fait, où grandit l'héroïne. Ensuite, on va voir le quai d'une gare, on va voir l'intérieur bourgeois dans lequel elle aménage avec son nouvel époux. On voit la scène des éclats de folie qui est pleine de paillettes. Donc voilà, il y a une multitude de changements de décors et tout ça s'enchaîne avec une très grande fluidité de façon cinématographique. En fait, tout ça est vraiment réglé comme du papier à musique.
Charles Arden.
Oui, c'est impressionnant à ce point-là aussi. Comme nos auditeurs le savent peut-être, il y a la patte de Jean-Luc Choplin sur ce théâtre.
Qui est le nouveau directeur du théâtre Marigny.
Et qui vient du Châtelet, dont on parlera d'un spectacle tout à l'heure. Et oui, j'étais impressionné que lui et ses équipes techniques, d'une certaine manière, réussissent à refaire des spectacles aussi merveilleux que ce qu'il y avait au Châtelet, alors que c'est bien sûr pas les mêmes dimensions, c'est pas les mêmes possibilités par rapport à un Américain à Paris. Mais là, c'est très travaillé, notamment sur les possibilités verticales d'utilisation des cintres pour comme ça faire monter, descendre, enchaîner tous ces décors. Et on passe voilà d'un spectacle à une gare, à un autre spectacle, à un saloon. Et comme ça arrive à se succéder très souplement les passages de vie, les passages de théâtre, les passages de spectacle, le spectacle dans le spectacle. Et ça, c'est très important parce que comme ça permet de montrer le lien entre la vie de la femme qui se mélange entre sur scène, en dehors de la scène, ses amours imaginaires, ses amours réels, ses problèmes qu'elle résout ou pas. Enfin, très intéressant à ce point-là aussi.
Anna Sigalevitch.
Oui, aussi, je suis d'accord, c'est objectivement très fluide, très bien fait, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Je dirais peut-être une chose. Si, bon, il faut peut-être pas comparer le film et la comédie musicale, mais tout de même, il y a dans le film vraiment quelque chose de burlesque dès le départ, notamment quand elle commence à faire carrière, à être engagée, parce que au départ, faut quand même dire que personne ne veut d'elle a priori, puisqu'elle ne correspond pas à ce qu'on attend d'une star de comédie musicale. Et dans le film, c'est vrai qu'elle commence presque sur un malentendu, c'est-à-dire qu'il y a un numéro comique de patin à roulettes qui n'est pas dans la comédie musicale, ça c'est pas eux qui l'ont enlevé, je crois que ça n'était pas dans la comédie musicale, ça a été ajouté pour le film, donc 4 ans après la création à Broadway, mais le burlesque met du temps à arriver. Il y a une subtilité, une finesse dans le film qu'il n'y a pas complètement au départ. Ça met un petit peu de temps à venir. Il y a un numéro qui est très amusant où là le burlesque apparaît, mais c'est assez tard. C'est dans la chanson Ratatata, où qui est là extrêmement bien réglé. Il faut vraiment parler des gens qui sont autour d'elle aussi. Les danseuses, elles sont pas nombreuses, mais elles sont impeccables et très bien caractérisées. Les personnages autour d'elle, notamment donc la mère, Mrs. Bryce, Rose Bryce, et il y a un personnage très amusant qui est le personnage de Madame Skatoche. Est-ce qu'elle s'appelle Skatoche ?
C'est pas mal comme nom.
Strakoche. Okay. Voilà, Strakoche, qui est donc la copine, parce que il y a toute une communauté en fait c'est à Henry Street où donc ce quartier juif de New York populaire où tout le monde sait tout de tout le monde et tout est là et donc c'est pas évident sur scène de recréer cette communauté et finalement avec relativement peu de gens ils arrivent à recréer complètement cette ambiance etc. Donc voilà, je dirais que le burlesque juste met un peu de temps à arriver et c'est ce qui m'a manqué. Mais à part ça, c'est quand même remarquablement bien fait.
Emmanuel Dupuis.
Oui, tout repose en réalité sur les épaules des comédiens qui ont une discipline que...
Et qui dansent, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la chorégraphie.
Oui, c'est ça, bien sûr. Mais c'est ça, ils ont une discipline qui n'appartient qu'en fait qu'aux Américains, qui s'est perdue chez nous. C'est-à-dire que ce sont des comédiens qui savent tout faire, qui savent chanter, qui savent danser.
Qui s'est perdu chez nous, parce que ça a déjà existé chez nous.
Je pense que ça a existé, ouais. Oui.
Non, mais c'est une vraie question.
Effectivement, et on en parlera tout à l'heure à propos de Yes, je pense.
Très bien.
Charles disait que tout à l'heure que Jean-Luc Choplin n'avait pas les mêmes moyens au théâtre Marigny que ceux qu'il avait au Châtelet, et ça vaut aussi pour l'orchestre parce qu'au Châtelet, Jean-Luc Choplin avait de grandes formations, et là on a un tout petit ensemble de 10 musiciens. Ce sont essentiellement des vents, des claviers, il n'y a pas de cordes à part une contrebasse. Et pourtant, malgré ce petit ensemble, moi je n'ai pas été du tout frustré j'ai pas senti une matière sonore décharnée. Bon, il faut dire qu'il y a une sonorisation qui est assez bien faite et qui corrige très bien les équilibres.
Et oui, puis il y a deux claviers qui prennent en charge du coup les instruments.
Voilà, c'est ça.
Qui ne peuvent pas
symphonique.
Voilà, exactement. Et puis c'est très bien dirigé avec beaucoup de d'énergie, beaucoup de groove aussi par James McKeon, je crois.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Parce que quand même, moi j'ai lu que c'était quand même un peu une version miniature de ce que peut être l'orchestration de Jules Stein, qui lui a l'habitude des grands effectifs hollywoodiens et de la musique de film. Ça passe bien au théâtre Marigny, Charles Ardenne?
Oui, ça passera bien. Alors certes, bien sûr, Marigny, c'est pas le Châtelet et c'est encore moins un grand théâtre de Broadway.
À Broadway, les formations ne sont pas très grandes non plus. Hein, c'est pas, ils ont pas de grands orchestres.
Hein, ils ont pas forcément des grands orchestres, mais ils ont un jeu dans l'opulence. Enfin, il y a une différente approche de la masse sonore. Là, j'ai trouvé ça très bien justement parce que il y a une dynamique constante. Enfin, ça donne de l'énergie et c'est tellement important parce que ça soutient déjà tout simplement les morceaux dansés hein, qui structurent l'opus. Ça donne de l'énergie au plateau. Ça permet d'enchaîner les tableau. Et moi, je suis encore, à chaque fois que je vois un musical, admiratif de ce son continu. Enfin, ça enchaîne, ça relance toujours l'intérêt. Le public applaudit en permanence parce qu'il est émerveillé devant tous les numéros et l'orchestre reprend, enchaîne, etc. etc. On voit pas le temps passer grâce aussi à cette dynamique instrumentale.
Emmanuel?
Non, oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Et bon, il faut dire aussi que le théâtre Marigny n'est pas un très grand théâtre. C'est un théâtre où il y a simplement 1000 places. Donc cet effectif instrumental convient parfaitement. Et bon, globalement, moi, j'allais avec quelques réserves, n'étant pas toujours très fan de ce genre de répertoire, mais franchement, j'ai passé un excellent moment.
Anna Sigalevitch.
Et en ce qui concerne la musique, moi, je vais juste comparer un tout petit peu avec l'année dernière quand il y avait eu Podane, où il y avait un mélange de musiciens et de bandes. Et là, c'était pour moi vraiment problématique. Ce qu'on n'a pas du tout ce coup-ci, où en effet, il y a une dizaine de musiciens, mais c'est vraiment du live. Et on entend chaque instrument, bizarrement, plus qu'au Châtelet.
Oui. Hein,
là, on va en reparler, mais en tout cas, il y a plus de grains, il y a plus de personnalité. Et le côté live et acoustique se fait bien sentir, même si tout est assez fort, il y a du grain, il y a de la matière sonore.
Funny Girl, dans une mise en scène de Stephen Mears, c'est une première en France et c'est au théâtre Marigny à Paris jusqu'au 7 mars prochain. À suivre dans la dispute encore de la comédie musicale avec Un Américain à Paris, Yes par la compagnie Les Brigands et un coup de cœur de Charles Ardenne pour l'opéra américain de Kurt Weill, Street Scene, sorti en DVD.
France Culture. La dispute.
Poursuivons cette dispute de Noël avec un autre classique de la comédie musicale américaine, Un Américain à Paris de George et Ira Gershwin au Théâtre du Châtelet. La mise en scène et la chorégraphie sont signées Christopher Wildon, la direction musicale Jesse Warkentin. Un Américain à Paris, alors là pour le coup c'est un film avant d'être un spectacle, un film de Vincente Minnelli sorti en 1951. On découvre dans un Paris qui se relève douloureusement de l'occupation Jerry, un soldat américain qui décide de rester en France pour vivre de son art, en l'occurrence la peinture. Sans le sou, il devient le protégé d'une riche mécène américaine qui le présente à l'avant-garde parisienne dans laquelle il rencontre un jeune bourgeois qui veut devenir artiste de revue, un compositeur déprimé et puis Liz, une danseuse virtuose et mystérieuse, dont tous sont amoureux. Premières impressions sur le retour de ce désormais grand classique, c'est une production qui tourne déjà depuis un petit moment. Anna Sigalevitch.
Je trouve que l'adaptation est très subtile, assez complexe et très intelligemment faite. C'est vraiment, je trouve, un très très beau spectacle, avec quelques réserves, pour le coup, sur la sonorisation.
Emmanuel Dupuis.
Oui, alors j'aurais davantage de réserves sur l'adaptation. Je trouve que autant la première partie pour moi a été un grand moment d'enchantement, autant j'ai trouvé la seconde partie un peu plus laborieuse. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. Et puis j'ai eu quand même quelques frustrations musicales tout au long de la soirée.
Charles Ardenne.
C'est une belle carte postale avec les clichés qu'il y a dans des belles cartes postales, mais c'est une carte postale donc de Paris libéré, vue par les Yankees, mais que là, nous Français, on s'enverrait à nous-mêmes.
Carte postale, en effet, le spectacle se passe dans le milieu artistique. Le film, d'ailleurs, était déjà très très nourri de la peinture parisienne de l'époque, avec force toile de fond. Peut-être on peut commencer par ce qu'on voit sur scène. Bon, il y a beaucoup beaucoup de choses, mais Anna, peut-être quelques directions sur l'esthétique du spectacle.
Sur l'esthétique du spectacle, elle est intéressante parce qu'elle mélange plusieurs époques. Alors, il faut dire qu'on commence par celui qui devient le narrateur du spectacle, hein, dans l'adaptation, qui est donc... Adam Hochberg, qui est joué par Zachary Prince. Oui, Zachary Prince, c'est ça. Donc, quand il entre en scène, il y a juste un piano à queue sur scène, ancien, en bois. La scène est complètement nue et il y a en toile de fond l'Arc de Triomphe. Et puis, ensuite, on va découvrir donc 8 panneaux qui se promènent, qui sont en fait sur des roulettes qui circulent en permanence sur la scène du théâtre du Châtelet, avec quelques éléments de décor, des meubles, pas grand chose, mais tout est fait sur des roulettes pour que ce ne soit pas des rails, pour que les danseurs puissent déambuler à leur guise. C'est important parce que c'est vraiment un ballet et la danse prime, à mon sens, vraiment dans cette adaptation. C'est une esthétique donc qui est à la fois le Paris d'après-guerre, avec des images du vieux Paris en noir et blanc. Sur les panneaux, ce sont des photos puis qui s'animent un petit peu. C'est subtilement fait, hein. Il y a vraiment du goût. Ça devient en couleur. Elles sont un petit peu repeintes, etc. Et puis il y a donc cette esthétique là. Mais moi, j'ai aussi beaucoup pensé à l'esthétique des années 20, qui pourtant, bon voilà, c'est.
Dans le film, il y a à peu près toutes les époques de Paris qui se succèdent.
Voilà, en fait. Et là, on a ça aussi beaucoup dans l'esthétique chorégraphique, où on pense vraiment... Moi, je me suis dit, ça a été créé au Théâtre du Châtelet, et donc il y a de l'hommage au ballet russe, en fait, là-dedans. On peut imaginer Picasso, on peut imaginer même par moments, dans le salon de Gertrude Stein, on peut apparenter le personnage de la milliardaire américaine Milo. Ça n'a rien à voir, mais on a cet esprit-là. On pense au cubisme par les tableaux qui sont chez Milo. On pense aussi à l'abstraction géométrique, hein, le ballet final qui prend beaucoup de place. Ils ont presque des tenues qui ressemblent à des mondrians. Et on pense à cette esthétique, ce Paris moderne qui essaye de se réinventer, qui est plein de vitalité, avec la création d'une œuvre, ce qui n'est pas dans le film, mais qui là devient l'objet de toute la deuxième partie du spectacle. C'est très élégant et c'est il y a beaucoup de classe visuelle sur scène.
Emmanuel Dupuis, sur le caractère visuel, vous êtes aussi enthousiaste qu'Anna ?
Oui, tout à fait. C'est d'une certaine manière, visuellement, c'est un spectacle qui est touché par une forme de grâce. C'est-à-dire que tout est fait avec beaucoup de subtilité. Il y a toutes ces références picturales dont a parlé Anna. Et puis, il y a là aussi une fluidité dans les enchaînements, une fluidité dans le mouvement, les enchaînements entre la danse, les parties chantées, les parties déclamées. Il y a effectivement une forme de grâce et qui au moins pendant la première partie et à certains moments dans la seconde partie provoque, je disais tout à l'heure, une forme d'enchantement et puis avec des effets de mise en scène quand même qui sont assez époustouflants, notamment c'est dans la deuxième partie. À un moment, le personnage de Henry chante dans un cabaret miteux de
Montmartre, oui, ou ouais.
Voilà, par là, et en chantant, il se m'est arrivé qu'il est sur une très grande scène, et là effectivement on voit
à Broadway,
et là on voit comme par magie, mais vraiment par magie, c'est le mot, on voit la scène du petit cabaret se transformer en une immense scène pleine de paillettes façon Broadway, et ça c'est un effet absolument époustouflant.
C'est le seul numéro de claquette, d'ailleurs, on va y revenir. Charles Arden.
Tout à fait. Il y a deux immenses, vu les dimensions, numéros qui structurent, qui architecturent, on pourrait dire, ce spectacle, qui sont le numéro dont vient de parler Emmanuel, ce numéro onirique où le jeune Français rêve qu'il est à Broadway, et du coup le décor devient complètement américain dans tout l'émerveillement qu'on peut imaginer. Et puis ce grand numéro dont parlait Anna, numéro de ballet, très très bien dansé. Alors il y a des claquettes uniquement dans le deuxième numéro, même, parce que le premier c'est des références à la danse classique, et c'est très très bien fait.
C'est Balanchine, hein.
On va y revenir à la danse, on va peut-être quand même écouter un petit extrait.
Thank you. I got my gal who could ask for anything more. It's better in 4/4.
It is.
I got daisies in green pastures. I got to my gal who could ask for anything more.
It's great.
Emmanuel Dupuis, un petit mot sur la musique, sur l'orchestre, peut-être, on peut commencer par là.
Oui, eh ben c'est là justement,
c'est là que le bas blesse.
Il y a un problème parce que étrangement, bon, il y a davantage de musiciens que Théâtre Marigny. Il y a 25 musiciens au Châtelet qui sont sonorisés, mais alors là, qui pour le coup ne sont pas très bien sonorisés. Il y a des moments où de saturation sonore assez pénible. D'autre part, ces 25 musiciens, bon, pour accompagner les songs comme I Got Rhythm qu'on vient d'entendre ou The Man I Love, bon, ça va, ils font le job. Mais quand il s'agit de jouer le
ballet, le
grand ballet, un Américain à Paris qui donne son titre à la comédie musicale, en fait, cette œuvre, c'est un poème symphonique qui a été composé par Gershwin, qui à l'origine n'était pas du tout conçu pour figurer dans une comédie musicale. C'est un poème symphonique écrit pour un grand orchestre qu'on a entendu jouer par les plus grands orchestres de la planète. Et là, pour le coup, à ce moment-là, j'ai ressenti beaucoup de frustration parce que le son est comme décharné et ça ne marche pas. Et je dirais qu'à ce moment-là, j'ai aussi ressenti quelle frustration par rapport à la danse, parce que bon, on l'a dit tout à l'heure, la danse tient un rôle très important, une place très importante dans ce spectacle. De façon générale, les danseurs sont excellents dans le registre de la comédie musicale, mais là, pour ce grand ballet, là, on aimerait un niveau chorégraphique un petit peu supérieur.
Anna Sigalevitch, peut-être là-dessus précisément, sur le type de chorégraphie et de danse qui est
sur
mise en œuvre.
Sur le type de chorégraphie, oui. Alors, juste, je suis d'accord avec Emmanuel, franchement,
sur la
sonorisation. Parce que malheureusement, en fait, ça aplatit le spectacle. Ça normalise, ça cadre, il n'y a pas de grain. C'est très étrange, c'est très en place, mais on n'entend pas les instruments, on n'entend pas les solistes. Et c'est vrai que pour le poème symphonique écrit par Gershwin, là, c'est problématique. Sur la danse, moi, j'étais très emballée par la danse, la chorégraphie qui est donc typiquement néoclassique, donc Balanchine, on peut penser même à Forsythe, un petit peu, enfin à ce type de chorégraphe, donc c'est-à-dire avec une technique totalement classique, mais avec des déhanchés, les poignets cassés, beaucoup de pointes. Ce sont vraiment et la troupe et les solistes d'excellents danseurs classiques. Hein. Il faut dire que les deux héros, Liz Dassin et Jerry Mulligan, qui sont interprétés donc par Ryan Steele et Liane Kopp, sont des vrais danseurs. Lui, il est, c'est un super technicien. Enfin, à un moment donné, il enchaîne 5 pirouettes, 2 tours en l'air, il fait des manèges de grand jeté en tournant, des tours attitude. C'est un vrai virtuose classique. Moins comme chanteur, on va sûrement y revenir. Et Liane Kopp est aussi une très belle danseuse classique. Et puis, une danseuse classique qui a beaucoup d'élégance. C'est-à-dire qu'elle a un très beau port de tête, elle a un très beau bas de jambes, elle n'en fait pas des caisses, elle ne lève pas les jambes derrière la tête. Mais tout ce qu'elle fait est extrêmement propre et rigoureux. Et ça va bien avec le personnage. Ses tours sont toujours planés, elle a très beaux équilibres. Enfin, c'est vraiment deux danseurs, leur duo sont je trouve absolument magnifiques. Et pour le ballet final, donc là c'est aussi dans l'adaptation, hein, parce que dans le film ça ne raconte pas ça, mais là dans l'adaptation, en fait, Liz est en scène et elle dit mais je n'ai plus la flamme, je ne sais plus comment retrouver le désir et le feu sacré d'être en scène. Et on lui dit mais pense à peut-être l'homme que tu aimes. C'est en plus c'est Milo qui lui dit ça, qui elle-même est amoureuse de Jerry, mais bon, voilà, elle est généreuse et donc elle lui dit pense à ça et donc elle imagine danser avec lui, et donc c'est lui évidemment qui danse en scène. Et je trouve que ce ballet très très réussi.
Et ça manque pas de claquettes pour vous, parce que moi j'étais très déçue de voir les danseurs arriver en scène en chaussons en permanence et jamais en chaussures de claquettes.
Et pas du tout, non, je trouve que c'est un vrai choix qui se tient. Il y a une esthétique qui est cohérente de bout en bout, qui est belle, qui est inventive, la chorégraphie se régénère sans cesse. Moi je suis tout à fait emballée par ce que j'ai vu, et ça ne m'a pas manqué les claquettes justement.
Dans la partition, vous ça vous a pas manqué, parce que les claquettes, bon évidemment c'est un élément chorégraphique, mais c'est presque aussi un instrument de musique, Charles Ardenne.
Si, moi ça m'a ça m'a clairement manqué. Je veux dire, on va voilà au Châtelet voir une comédie musicale. On s'attend, c'est un peu dans le contrat, on va dire.
C'est des Américains, on veut voir des.
C'est des Américains. Il y a des passages voilà qui parcourent les rues de Paris. Il y a cette énergie. Je pense en effet que ça aurait été intéressant et que ça aurait, comme vous le dites très bien, aidé aussi à rythmer la musique sans forcément enlever quoi que ce soit. En effet, ce qui a été dit sur la qualité des ballets. Donc là, le choix a clairement été fait. Dommage qu'il soit pas aussi bien annoncé, de pas faire une comédie musicale à l'américaine, mais un peu, je sais pas, une sorte de comédie ballet ou enfin autre chose. Bon, pourquoi pas, sachant en effet que le ballet est très intéressant et comme l'a dit très bien Anna, ils dansent tous remarquablement bien. Mais ça concerne les solistes, mais ça concerne toute la troupe.
Ah oui, tous,
je vais pas dire moindre, ce serait méprisant, mais le dixième danseur de l'ensemble, quand il vient amener une chaise, il le fait en faisant une pirouette ou en faisant, c'est assez.
Il y a en effet beaucoup de numéros avec des tout petits détails, il y a beaucoup de choses à voir.
Et de l'humour et de l'ironie aussi, je pense au ballet antique, notamment, là aussi, référence aux années 20, etc., où c'était à la mode, ça c'est très réussi aussi. Il y a de l'humour, il y a de l'esprit dans cette danse, c'est pas à premier degré.
Emmanuel Dupuis.
Alors moi personnellement, les claquettes ne m'ont pas vraiment manqué. J'ai trouvé au contraire très intéressant qu'on essaie de tirer ce spectacle vers quelque chose de beaucoup plus élégant et beaucoup plus classique, beaucoup plus noble d'une certaine manière. Ceci étant, effectivement, comme on l'a dit, l'écueil, c'est que les protagonistes sont incarnés par des danseurs qui ne sont pas toujours de très bons chanteurs, et c'est surtout le cas de Léane Kopp, je trouve, qui
joue donc Lise Dassin.
Qui effectivement est une excellente danseuse, mais à un moment, elle doit chanter The Man I Love, song que tout le monde connaît, et qui demande une voix ample et puissante qu'elle n'a pas. Et là, c'est franchement un peu court. Et étrangement, ce sont les rôles secondaires qui chantent le mieux. Et notamment, pour moi, c'est Emily Ferranti qui, vocalement, domine.
Qui est donc Milo Davenport, voilà. la mécène, la fameuse.
Voilà. Oui. C'est elle qui domine la distribution vocale avec vraiment beaucoup de puissance et puis un véritable abattage.
Oui, c'est terrible en plus parce qu'elle arrive assez tard dans le spectacle et donc le contraste est saisissant. Charles Ardenne, un mot sur le plateau vocal.
Ouais, déception. Franchement, en effet, comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'école américaine, par rapport à ce qu'on voit dans Funny Girl, où en effet ils savent à la fois chanter, jouer et danser, là on a clairement l'impression qu'ils ont pris des danseurs qui jouent éventuellement un peu, mais vocalement, non, le compte y est pas du tout. Et puis, à partir du moment où vous avez pas la matière, comme disait très justement Emmanuel par rapport aussi à l'orchestre, vous êtes obligé de tricher un peu sur les projections, sur l'amplification, sur les micros, ça déséquilibre complètement tout. Et c'est problématique aussi vis-à-vis de l'histoire, parce que on est censé être dans cette histoire un peu féerique, où tout le monde est très talentueux, où tout le monde brille par aussi la voix, où tout le monde est romantique, où tout le monde s'épanche. Ce qui est amusant dans cette histoire, c'est qu'il y a un petit côté la bohème de Puccini, hein, parce que vous avez comme ça des artistes en goguette.
Oui, les trois copains.
Exactement, les trois copains qui, comme par hasard, en plus, vous avez un peintre, un musicien, et puis...
Un chanteur,
voilà. Et puis, voilà. Non, il manque un peu des poètes et tout ça, mais qui sont tous amoureux de la même...
pareil.
Tous amoureux de cette même pauvre fille un peu malingre, mais qui se révèle être...
Un peu malingre.
Étant donné ce qui lui est arrivé... Non, je parle du personnage, hein, bien sûr, j'oserais pas parler de l'interprète.
Anna Sigalevitch, un petit mot sur les voix.
Bah oui, je suis d'accord. Enfin, c'est assez frappant en effet pour les deux héros. En effet, Emily Ferranti a vraiment de la matière, de la chair, et puis une ligne, parce qu'il y a un gros problème notamment chez Léane Kopp de ligne, de phrasé. Il y a des trous dans la voix, enfin ça monte, ça descend, ça, voilà, elle est pas à l'aise. Moi j'ai aimé aussi alors Michael Burrell qui joue Henri Borel, il est censé chanter mal et ne pas être doué, mais alors lui je pense qu'il a un très bon potentiel, et quand il chante dans les graves, il a lui vraiment quelque chose. Pareil pour Zachary Prince, hein, qui est aussi musicien. En fait, c'est les rôles autour qui sont réellement chanteurs plus que danseurs. Bon, mais dans l'équilibre, ça passe. C'est vrai que c'est problématique dans le quatuor. Quand il y a les deux couples et qu'on entend donc clairement les quatre voix, il y a... Oui, c'est assez disparate et déséquilibré. Mais bon...
Non, mais c'est un très bon spectacle, oui, et surtout par rapport au film. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un travail d'adaptation qui est extrêmement fin. Et c'est pas simple. Quand on revoit le film après, c'est assez frappant. Emmanuel Dupuis, peut-être un dernier mot.
Oui, mais sur l'adaptation, là, je vous rejoins pas tout à fait, parce que je autant je trouve que dans la première partie ça marcherait bien, parce que bon, il faut dire quand même que le spectacle est sensiblement plus long que le film. Il y a bien 20 minutes de plus, on a ajouté beaucoup d'éléments, mais le problème c'est que à la fin de la première partie, bon, voilà, on a un petit peu compris ce qui va se passer, et je trouve que la seconde partie par moment tire un peu à la ligne, quoi, et qu'il y a quelques temps morts à ce moment-là. Il y a un problème de rythme, je trouve, dans la seconde partie.
Anna, Sigalovic.
Non, moi je trouve pas du tout. Je trouve que l'adaptation donc est très fine. Est-ce que je raconte un tout petit peu ou
Oui, allez-y.
Un tout petit peu. Donc là, on est directement dans l'après-guerre et le contexte historique, politique est vraiment mis en scène. Hein. On entend à un moment donné, c'est par des petits détails, c'est ce qui est subtil. Il y a une coupure de courant, paf, tout le monde va sous la table. Donc on comprend qu'on est dans un Paris traumatisé. On voit au début des drapeaux nazis qui sont tagués. Ensuite, le drapeau nazi tombe et puis c'est le drapeau français qui se met en place,
d'ailleurs, mais... pas compris comment c'était fait, c'était assez magique.
Hyper
ça.
Bien,
j'ai pas
ça,
compris
ça
aussi. Ouais.
Un mélange de projections vidéo, ouais, de draperie, ouais, de seins, de... Ouais, non, c'est maîtrisé. Hein.
Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis, il y a les personnages sont plus complexes. Donc le personnage de Lise, elle s'appelle Dassin. On comprend qu'elle est juive, que ses parents ont été déportés. Il y a aussi une histoire de culpabilité. Mmh. Est-ce que quand on s'est bien comporté pendant la guerre, ça fait de soi quelqu'un qui peut agir après en toute impunité? Ben voilà, ça se discute et on voit très bien les différences de culture américaine et française. Et il y a de l'ironie sur les deux cultures. Moi, franchement, je trouve que c'est remarquablement bien adapté.
Charles Arden, en dernier
mot. Je trouve ça bien plus intéressant quand Anna le raconte que le spectacle tel qu'il est. Ah oui, moi, franchement, j'ai été très rapidement... Enfin, j'ai trouvé ça très rapidement pénible, cette intrigue complètement téléphonée, ces enjeux moraux.
Bah, ça reste quand même globalement à peu près la même intrigue.
C'est un problème aussi dans l'œuvre de départ. Ah. Cet enjeu moral de la fille, en fait, qui a été protégée, qui a été cachée quand elle était juive par une famille et qui, du coup, se sent obligée d'épouser le fils de la famille, et lui, il y a une sous-intrigue qui débarque à un moment, comme s'il il doute d'être homosexuel ou pas. Ça vient de nulle part, ça repart nulle part. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont pas palpitantes.
Bon, allez vous faire votre idée d'un Américain à Paris, la comédie musicale, c'est au Théâtre du Châtelet jusqu'au 1er janvier, probablement des reprises à venir, guettez-le. Et c'est l'heure du coup de cœur de Charles Arden qui va avoir beaucoup de cadeaux cette année parce qu'il est très sage. Il a choisi une presque comédie musicale comme coup de cœur. En l'occurrence, c'est Street Scene, un opéra américain de Kurt Weill, paru en DVD. Vous nous dites peut-être, Charles, un peu de quoi il s'agit, puis on écoutera un extrait après.
Mais justement, ce qui est passionnant, c'est qu'il s'agit de ce qui se passe dans une rue américaine. Et Kurt Weill en fait une comédie musicale. Donc c'est en 1947. Et en fait, il continue le projet qu'il menait avec Brecht quand il était en Allemagne, dans l'opéra de Katsu, dans Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni, avant donc d'être chassé par les nazis. Et l'enjeu, c'est donc toujours de proposer un théâtre qui nomme épique, c'est-à-dire on a une épopée qui raconte quelque chose au spectateur, qui lui parle de son temps, qui lui parle des petites gens. Du quotidien. Et Kurt Weill va pour se faire continuer d'utiliser les moyens aussi bien de l'orchestre, de l'opérette, du cabaret allemand, avec des musiques populaires, jazzy, et en plus, il va s'approprier le genre de la comédie musicale américaine. C'est ça que je trouve absolument fascinant dans cette œuvre, c'est à quel point telle une éponge, il aspire l'esthétique, la musique de la comédie musicale, et aussi le peuple qui l'entoure, qui dans les rues, dans ses habitants. Donc c'est une comédie musicale qui va alterner comme il se doit le parler, le chanter, le danser, avec les rumeurs de la ville, avec les trafics des vendeurs. Et l'histoire, en fait, c'est l'histoire de ce quartier, l'histoire d'un immeuble, un jeune couple amoureux, un mari abusif, du tapage nocturne, des conflits de voisinage, un grand numéro sur les gosses qui veulent une crème glacée. Il arrive comme ça à faire une œuvre avec la banalité du quotidien. Il parle du rêve américain. Évidemment, comme c'est Kurt Weill, il y a un côté cruel qui s'installe de plus en plus et complètement dramatique. La musique est d'une richesse impressionnante, aussi riche que les différents personnages dont il emprunte les traditions musicales. Vous avez un rabbin communiste, un macho italien, des germaniques, des belles-mères, des enfants. Tout ça avec des accents donc d'opérette viennoise, d'opéra italien. C'est très lyrique, c'est pour ça qu'il a appelé ça un opéra, même si on est franchement dans la comédie musicale. musicale, du jazz, du blues, du grand orchestre. Et dans la mise en scène de John Fitzjames qui était à Madrid et qu'on reverra à Monte Carlo, donc vous avez ce grand immeuble qui à un moment s'ouvre en deux et qui révèle une perspective avec les rues de New York éclairées. Tout à fait impressionnant, un vrai melting pot musical qui montre aussi que le melting pot américain a tourné un peu vinaigre.
On écoute un petit extrait. Moon-faced, starry-eyed, I'm gonna bust my best with pride. I never lived, baby, not at all till I met you. At 6 o'clock, I expect your call. At 7 o'clock, I'm in the hall. At 8 o'clock, if you don't come by 9 o'clock, baby, I die. Moon-faced, starry-eyed, cook in the gas when I'm by your side. I swear my heart's nowhere without you. Christine Kurt Weill, le DVD a paru il y a un mois chez Bel Air Classique.
France Culture, La Dispute.
Et c'est un quatrième spectacle qui clôt cette dispute, un spectacle en tournée, Yes! Point d'exclamation. Une proposition de la compagnie Les Brigands avec le Palazzetto Bruzzane qui se retrouve après les Chevaliers de la Table Ronde et les Petites Michues, avec toujours cette perspective d'exhumer des partitions du répertoire français romantique versant bouffon. Yes, c'est donc une opérette qui date de 1928, la musique est de Maurice Yvain, le livret de Pierre et René Pujol. La mise en scène est signée Vladislav Galard et Bogdan Atissi dans la fosse C'est minimal, deux pianos, une contrebasse et des percussions. Charles Ardenne, vous nous dites peut-être un peu ce que cette opérette raconte avant que nous en écoutions un extrait.
C'est l'histoire de Maxime Gavard qui dépense dans les plaisirs de sa garçonnière durant les années folles l'argent de papa, qui est un riche industriel qui a fait fortune en vendant des pâtes. Mais son papa décide de lui imposer un mariage pour des raisons principalement économiques, un mariage de circonstances avec une riche héritière exotique, Marquita Negri. Le jeune Maxime trouve un stratagème avec l'aide de certains de ses amis. Il décide un peu de couper l'herbe sous le pied de son papa en allant faire un mariage à Londres. À l'époque, Londres, c'est un peu Las Vegas, apparemment. On pouvait comme ça aller très rapidement faire un mariage. Et vu qu'il se retrouvera déjà marié, son père pourra pas lui imposer ce mariage. Pour ce faire, il prend un peu la première fille qui lui tombe sous la main. C'est le cas de le dire, c'est sa manucure. Il lui demande sa main. Évidemment, tous ces jeux de mots sont bien présents dans cette œuvre.
Ah
oui. Et c'est qu'un microscopique aperçu.
Ça a l'air super.
Voilà. Mais ce mariage de raison va se révéler être un mariage d'amour.
Bon, on écoute un petit montage des morceaux.
S'il est beau un artiste, dois pas être égoïste. Moi, tout ce que j'ai de bien, je le donne et je ne garde rien. À chacune, je cède tout ce que je possède, voulant faire profiter toutes les femmes de toutes mes beautés. Regarde-moi de face, ce trois quarts de profil. Mesdames, franchement, cela vous plaît-il?
Ah, pas si mal.
Mes petits trésors, mes bontés sont pareils. T'es pour vous, t'es pour vous, t'es pour vous.
Ah.
Mon petit lit et ma bouche vermeille.
Et toi, mon loup, moi je fais tout, moi je prends tout.
C'est fantastique, c'est infinique. Et les cycliques, et pour t'avoir du CV du bruit pour faire son public.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Tonnerre de Dieu, sûrement ma femme est devenue folle. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est pas sérieux, rassurez-moi tout de suite, monsieur.
Ton mari me dit, tonnerre de Dieu, sûrement ma femme est devenue folle. Je crois entre nous qu'il vaudrait mieux lui dire que ça n'est pas sérieux.
Tiens, mon mari, c'est très sérieux et que je suis vraiment devenue folle. Amoureuse folle de tes beaux yeux, c'est toi que j'aime et que je veux. Je t'ai fait souffrir, mais je ne peux plus me contenir. Malgré tout, l'on revient toujours à ses premières amours.
Non, c'est faux, vous riez de ce cabot, vous seriez la maîtresse.
Yes!
Mais vous n'êtes qu'une grue, qu'une fille des rues, une bougresse.
Yes.
Pour la dernière fois, franchement, répondez-moi. Oui ou non, est-ce que vous l'aimez? Est-ce bien votre amant? Est-ce que tout est fini?
Yes.
Oui, dit Charles Arden. Anna, vous n'avez pas pu voir ce spectacle.
Non,
malheureusement pour vous. Alors un premier tour de table, Emmanuel, premier mot sur ce spectacle, yes.
Bon, c'est un spectacle assez minimaliste, mais à mon goût trop minimaliste, parce que minimaliste aussi dans les idées et dans le goût visuel aussi. Et puis surtout, la distribution manque de forte personnalité pour défendre cette œuvre.
Charles, un premier mot.
Je dirais yes, parce que il y a des choses très intéressantes, notamment les lyrics, les paroles.
Hein. Les lyrics.
Non, mais c'est parce que je dis ça, c'est pas pour faire un anglicisme, c'est parce que c'est la tradition de dire la manière dont on adapte un livret en lui donnant des paroles qui peuvent rimer, qui peuvent, donc même en France, on utilise ce barbarisme anglais. Mais donc on retrouve vraiment, bah, quand même, moi j'assume de le dire, le génie d'Albert Wilmets, qui avec Maurice Yvain a signé Mon Homme, des choses comme ça.
Il y a chanson de Mistinguette.
Exactement. Hein. Il y a un humour constant, permanent, plein de jeux de mots. C'est du Bobby Lapointe bien avant l'heure, évidemment. Le livret pose beaucoup de problèmes, en effet. Et puis, bah, mise en scène.
Bon, on va décrire peut-être justement Emmanuel Dupuis un mot sur. Allez, soyez le plus neutre possible. Ce qu'on voit sur la scène quand le rideau s'ouvre.
Bah, on voit d'abord les musiciens qui sont puisque les
sont sur la scène.
Les metteurs en scène ont pris le parti de placer les musiciens sur la scène, c'est-à-dire alors il y a peu de musiciens, mais il y a quand même deux pianos, ça prend quand même beaucoup de place, même s'il s'agit de piano droit. Il y a aussi une contrebasse, un percussionniste. De temps en temps, il y a une flûtiste qui passe. Mais voilà, ces musiciens occupent une place assez importante sur scène. Et du coup, ils réduisent un peu l'espace de jeu. Et à mon avis, c'est déjà un problème. Et à part ça, bon, les décors, c'est comme je le disais, assez minimaliste. Et c'est fait de quelques éléments de mobilier, de quelques objets.
Ah, ni folle, du coup. On est...
Oui, on est dans cet univers des années 1930, ça, de façon évidente. Ensuite, bon, alors je ne vais plus être très neutre.
Mais, allez-y.
Bon, dans les éléments de décor, il y a parfois des choses où là, franchement, c'était pas la peine, notamment au deuxième acte, il y a une immense toile peinte qui est censée représenter la mer et les falaises du côté du Touquet. Mais cette toile peinte, mais elle est horrible à un point, vous pouvez pas imaginer, quoi. C'est limite patronage. Et franchement, là, c'était pas la peine, quoi.
Charles, un mot sur la mise en scène.
Bah, c'est difficile de la défendre. Moi, j'ai pas vu une mise en scène et je vous avoue que je suis assez étonné en lisant le programme de voir qu'il y a deux personnes qui sont annoncées à la mise en scène plus un scénographe. Enfin, ça fait trois emplois fictifs. C'est une mise en espace en fait et c'est pas inintéressant forcément. L'idée de départ, c'est que donc le jeune qui dépense son argent dans sa garçonnière, bah il est dans un capharnaüm. Alors justement, la scène, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a, comme l'a dit Emmanuel, voilà les instruments dont il faudra reparler parce que c'est intéressant au niveau de l'adaptation musicale qui a été faite. Il y a des affiches donc qui nous renvoient aux années folles. Il y a des gens plus ou moins vêtus et surtout des vêtus. Bon, avec des sketchs un peu lourds, dont on passe tout nu avec un plumeau pour cacher le sexe, etc. Ensuite, il y a quelques bouts d'idées, justement, quand on tire les pianos, quand on les déplace pour faire des hamacs, etc. Mais principalement, non, c'est plutôt un espace, quoi, un capharnaüm assez bien réglé, qui sert de prétexte, en fait, pour abriter l'action.
Alors, parlez-nous de la musique. À quoi ressemble la partition? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour le coup, c'est quand même deux compagnies, entre guillemets, deux institutions qui sont connues pour faire un vrai travail sur des partitions oubliées.
Ouais, c'est très intéressant parce que, à la base, cette œuvre, elle a une particularité, c'est qu'elle est faite pour deux pianos. La musique est pour deux pianos. Et c'est assez intéressant parce que c'est pas une œuvre pour orchestre qu'on aurait réduite ou harmonisée à deux pianos. Non, ça avait vraiment été composé pour ça. Donc, la première chose, quand on regarde le programme et qu'on connaît un tout petit peu cette œuvre qui est très rare, c'est qu'on se dit, mince, on a une œuvre pour deux pianos et là ils ont fait une adaptation, une réharmonisation. Mais en fait c'est assez bien fait, heureusement j'ai trouvé, et ça participe aussi de l'action scénique, par exemple grâce au percussionniste qui va faire son office, qui va faire de la batterie même sur un service à thé, sur les trucs qui traînent sur la scène. C'est assez bien fichu, ça rajoute de différentes couleurs instrumentales. On a un vibraphone, on a voilà contrebasse qui tient un peu l'ensemble, et bah la musique c'est quand même des chansons, c'est un enchaînement de chansons agréables, certaines assez mémorables, hein, qui sont faciles et plaisantes aussi bien à interpréter qu'à écouter.
Emmanuel Dupuis, vous nous en chantez une?
Non.
Ok, bon.
Mais par rapport à l'adaptation musicale, bon, les deux pianos continuent dans cette adaptation à avoir le rôle principal et ils ont une partie extrêmement virtuose. Et le fait qu'on ait rajouté des percussions, enfin en réalité une batterie et une contrebasse, accentue, je trouve, le côté jazzy de l'écriture, mais qui est réel. C'est une partition qui est vraiment influencée par le jazz américain des années 30.
Et dont j'ai lu d'ailleurs que les effectifs avaient beaucoup changé en fonction des lieux où il avait été joué. Ça a été écrit pour deux pianos, mais finalement ça a été joué à 10, puis 20, puis 30 musiciens.
Pour grand orchestre finalement, oui c'est ça. Oui.
Alors le plateau vocal peut-être, il y a beaucoup de chanteurs.
Ouais.
Emmanuel Dupuis.
Oui, le gros problème, c'est que ce genre d'œuvre. Dans les années 30, c'était joué par des gens comme Rému, Fernandel, Bourville, Arletty, c'est-à-dire des gens qui étaient aussi bons comédiens que chanteurs. Et c'est pour ça tout à l'heure à propos que je disais à propos de Funny Girl que cette tradition chez nous s'était perdue parce que là en l'occurrence on a sur scène soit des gens qui chantent plutôt très bien comme Clarisse Dahl qui chante le rôle de Toth, donc la manicure, mais qui n'est pas une immense comédienne, ou alors on a des gens qui chantent moyennement et qui ne sont pas non plus d'excellents comédiens, donc ça fait quand même beaucoup de défauts. Alors je mettrai à part quand même Éric Boucher qui joue le père Gavard, donc le père du héros Maxime, qui lui a une vraie présence, un vrai poids dramatique, mais malheureusement c'est le seul. Et je trouve que le spectacle pêche beaucoup à cause de cela.
Charles Ardenne.
C'est vrai qu'on a beaucoup, en effet, cette impression d'alternance, de volume, notamment entre ceux qui jouent assez bien, mais d'un coup, on les entend plus, quasiment plus quand ils chantent, et réciproquement, il y a quand même des numéros vraiment savoureux qui valent le déplacement, notamment Éric Boucher, le roi du vermicelle. Enfin, c'est tout un poème. Il a une faconde, il a une présence, il a un charisme comme ça, de grand gras industriel, hein, dans le caractère. Très très bien fait. Et puis évidemment le numéro inoubliable de Caroline Binder qui convoque Arletty, hein, qui s'était occupée du rôle de Clémentine, qui fait une zézette complètement folle, une bonne qui cherche un emploi édentée, zézayant. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a un sous-texte social aussi, hein, un sous-texte politique dans cette œuvre. Voilà, elle explique que elle en a un peu assez, que les patrons abusent d'elle. Elle veut bien un peu, mais pas trop. Enfin, c'est un peu grinçant quand même, hein, tout ça.
Yes, un spectacle de la compagnie Les Brigands est en tournée du 29 décembre prochain au 16 janvier. Ce sera à l'Athénée à Paris, le 19 janvier à l'Opéra de Vichy, le 26 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, un peu plus tard le 26 mars au Moulin du Roc à Niort et puis le 31 mars au Relais Culturel d'Haguenau. Il est bientôt l'heure de conclure cette émission, mais tout de suite c'est le jeu de la dispute avec David Dana qui va nous donner la question. A gagné ce soir des invitations pour l'exposition De l'amour au Palais de la Découverte à Paris.
Pour quel film Michael Haneke a-t-il reçu sa deuxième palme d'or?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Touendoy, Boris Pinault et David Dana. À la prise de son ce soir, c'était Jérémy Kaufmann. À la réalisation, c'est toujours Alexandre Fougeron. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de La Dispute, site sur lequel vous trouverez réécoute et podcast. Vous avez rendez-vous demain à 19h avec Arnaud Laporte pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Il sera en compagnie de Sally Bonne, Anaël Pija et Fabrice Bousteau. À l'affiche, la collection Alana, chef-d'œuvre de la peinture italienne au musée Jacques Marandré à Paris. Degas à l'Opéra, ça c'est au musée d'Orsay. Marche et démarche, une histoire de la chaussure au musée des arts décoratifs. Et il y aura bien sûr un coup de cœur, ce sera celui de Sally Bonne pour Par hasard, exposition dans un double lieu, la Vieille Charité et la Friche de la Belle de Mai à Marseille.